L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sourdril.
Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. J'espère que vous allez bien. Peut-être c'est la première fois que vous regardez cette émission qui va se dérouler sur une semaine. Nous allons parler du ciel, nous allons parler de l'enfer, nous allons parler de l'enlèvement de l'Église, de la vie et de la mort. Et je crois que vous allez retrouver dans cette semaine des choses très, très, très intéressantes. Et je vous encourage à suivre ces émissions jusqu'à la fin de cette semaine. On va parler donc de l'enfer, du ciel, de l'enlèvement de l'Église, du paradis perdu. Et aujourd'hui, on va répondre à 12 questions sur le thème de l'enfer. En terminant la lecture de ma Bible il y a quelques jours, je suis tombé sur un verset. Je me suis dit, ouais, ce serait vraiment intéressant de pouvoir parler de l'enfer, du ciel, etc. Et de répondre à ces 12 questions. On va répondre aux questions, l'enfer existe-t-il? Qu'est-ce que l'enfer? Qu'est-ce que le séjour des morts avant et après la mort de Jésus? Où les gens vont après leur mort? Qu'est-ce que la géhenne, les temps de feu et la seconde mort? Pour qui a été créé l'enfer? Si Dieu est bon, pourquoi enverrait-il des gens en enfer? Où se trouve l'enfer? Que se passe-t-il en enfer? Qui sont ceux qui iront en enfer? Combien de temps les gens resteront en enfer? Et pourquoi, finalement, les gens iront en enfer? On va répondre à toutes ces questions dans cette émission. Aujourd'hui, on aura un peu moins de temps de prière. Je pense que c'est important pour cette série que vous puissiez vraiment entendre tout ce qui va être partagé aujourd'hui. Et je crois que ça va vous pousser dans la prière à la maison. Première question, l'enfer existe-t-il? Tout simplement oui, car la Bible en fait mention dans l'Ancien Testament, dans les Évangiles et dans le Nouveau Testament en général. Oui, parce que les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament en parlent. Oui, car Jésus lui-même en parle à plusieurs reprises. Oui, parce qu'on peut aussi accepter le témoignage de personnes qui sont soit mortes ou arrivées dans un état où elles ont visité l'enfer en vision, ici je parle. Oui, également, parce que comme il y a un ciel en haut, il y a un enfer en bas. Qu'est-ce que l'enfer ? Alors, la géhenne, l'enfer, le lac et les temps de feu, de soufre, la fournaise ardente, l'abîme, les ténèbres du dehors, la seconde mort, est un lieu de châtiment. C'est une prison, un lieu de souffrance éternelle d'où on ne peut sortir. C'est un feu éternel qui ne s'éteint pas, là où les vers rongeurs ne meurent pas, où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est un lieu de mort et de perdition. C'est le châtiment d'une ruine éternelle dans l'obscurité des ténèbres, où les âmes qui n'auront de repos ni jour ni nuit seront enchaînées éternellement par les ténèbres et tourmentées en tout temps, au siècle des siècles, et où la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Alors, qu'est-ce que l'enfer? Et même d'une manière générale, l'abîme. L'abîme est une prison pour esprit en deux parties, qui comprend ce qu'on appelle le Tartaros, le Nouveau Testament en fait mention, lorsque Pierre nous parle de ce lieu, et nous montre qu'une proportion d'anges déchus, qu'on appelle des démons, se trouvent en ce moment même emprisonnés. Et dans la géhenne, donc, qui est en deux parties, le Tartaros, on a dit première partie, la deuxième partie, le séjour des morts, qui en grec, le mot est Hadès, et en hébreu, Sheol. Maintenant, qu'est-ce que le séjour des morts? Troisième question. Ce séjour des morts, donc on a vu qu'il y avait le Tartaros, il y a le séjour des morts. Le séjour des morts est lui-même en deux parties. Il y a ce qu'on appelle le sein d'Abraham pour les justes et ce qu'on appelle couramment l'enfer pour les injustes. Entre le sein d'Abraham et l'enfer, il y a un fossé infranchissable. Les morts rejoignaient donc dans l'Ancien Testament ce qu'on appelle le séjour des morts. Les justes allaient dans le sein d'Abraham et y jouissaient de la consolation et du repos. Mais les injustes allaient, et vont encore d'ailleurs, dans la deuxième partie du séjour des morts, une sorte de prison transitoire où ils attendent le jugement dernier et l'enfer éternel. Alors après sa mort, Jésus est descendu dans le séjour des morts. Il était impossible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Là, dans le séjour des morts, la Bible déclare qu'il a fait des proclamations aux incrédules. Il est resté dans le sein d'Abraham 3 jours et 3 nuits. Dieu ne l'a pas abandonné. Il a ensuite vidé le sein d'Abraham en libérant les âmes des croyants, des justes dans la foi, et les a ensuite amenés avec lui au troisième ciel. Désormais, à partir de maintenant, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et qui ont été réellement sauvés, qui marchent avec lui et qui persévèrent dans la foi, au lieu de descendre dans le séjour des morts, ils s'en vont maintenant directement auprès du Seigneur, comme déclare l'apôtre, « Nous aimons mieux quitter ce corps et être demeuré auprès du Seigneur. » Depuis la résurrection du Christ, personne ne va plus dans le sein d'Abraham. Il a été complètement vidé et il sera et restera vide. La Bible déclare qu'ensuite, Christ est monté en haut sur les hauteurs. Il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes, c'est ce dont je viens de parler. Mais il a aussi distribué des dons qui viennent du ciel aux hommes qui aujourd'hui proclament la bonne nouvelle de l'Évangile. Cinquièmement, qu'est-ce que la géhenne, l'étang de feu et ce qu'on appelle la seconde mort ? Le mot grec « géhenna » vient de l'hébreu « géhimom » et en fait ça vient d'une vallée qui s'appelait du même nom. Cette vallée était un lieu où se faisaient des sacrifices humains par les injustes. C'était un lieu pour les juifs donc, qui leur appelaient un lieu d'horreur. C'était synonyme d'horreur pour eux et c'était également un lieu où on brûlait les immondices constamment. Ces immondices étaient brûlés, comme on peut l'imaginer, un peu une décharge où tout ce qu'on jette à la poubelle est brûlé. Eh bien, pour eux, ça revenait à ce mot-là, donc le mot de la géhenne. Donc, la géhenne et l'étang de feu, c'est la même chose. Ces mots se retrouvent d'ailleurs un peu partout dans les évangiles et ailleurs dans le Nouveau Testament. Un jour, la mort et le séjour des morts, il est écrit, seront jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et il est écrit, quiconque ne sera pas écrit, dont le nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie, sera lui aussi jeté dans l'étang de feu, le lac de feu. Alors, ces deux expressions désignent l'état éternel de ceux qui sont perdus. C'est le sort éternel des impies qui sont perdus à cause de leur incrédulité et de leur refus de se soumettre à Dieu. Leur condition dernière est celle d'une seconde mort, d'une mort éternelle, c'est-à-dire une séparation éternelle d'avec Dieu. Rien qu'en ça, l'enfer est terrible, parce que c'est une séparation totale avec Dieu. Les gens ne réalisent pas, même ceux qui ne croient pas, qu'ils bénéficient aujourd'hui de la présence de Dieu, peut-être moins forte que nous, bien sûr, en tant qu'enfants de Dieu, mais ils ressentent quand même, quelque part, ils bénéficient en tout cas de la présence de Dieu dans leur vie. Leur respiration, tout ce qu'ils peuvent voir de bon, tout ça est le fruit de la présence de Dieu dans leur vie. En enfer, il n'y aura plus rien de la présence de Dieu et de la bonté de Dieu manifestée. Donc, cette seconde mort n'est en aucun cas un anéantissement. Ce n'est pas que ça s'arrête, ça continue. C'est un lieu où brûle le feu, le soufre. Pour qui a été créé l'étang de feu ? C'est une question que on peut se poser, effectivement, les gens se posent la question, mais pour qui a été créé l'étang de feu ? Est-ce que Dieu a pu créer l'étang de feu pour les hommes ? Les Écritures montrent très clairement que ce lieu a été préparé pour Satan et ses anges, non pas les anges de Dieu, mais les anges déchus, qui étaient auparavant des anges de Dieu. Les anges déchus, qu'on appelle les démons, ce lieu a été créé pour eux, quand ils se sont rebellés contre Dieu. Cependant, seront jetés aussi dans l'étang de feu tous ceux qui ont refusé le salut offert gratuitement en Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean au chapitre 3 et au verset 18, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc, ne passeront pas en jugement, ne seront pas condamnés. Tous ceux qui ont voulu croire que Jésus-Christ est venu mourir comme une victime expiatoire qu'il a pris nos péchés sur lui. Autre question, si Dieu est bon, septième question, pourquoi Dieu enverrait des gens en enfer ? Alors la réponse à cette question est la même qu'on pourrait répondre à la question suivante. Si Dieu est bon, eh bien pourquoi les gens doivent mourir ? C'est la même question un peu, c'est la même réponse. Les gens se posent la question, si Dieu est bon, pourquoi il devrait mourir éternellement ? Mais en fait, si Dieu est bon, pourquoi les gens devraient mourir tout simplement ? Eh bien, la réponse, c'est à cause du péché. Le péché est la cause de la mort physique, tout comme le péché est la cause de la mort d'une manière générale et de la mort éternelle. Le péché a donc cette conséquence de la mort physique, de la mort spirituelle, de la mort éternelle. Si vous pratiquez le péché, vous demeurez dans le péché, vous vivez dans le péché en refusant de vous soumettre à Dieu, vous vivrez non seulement comme tous les hommes la mort physique, mais également la mort spirituelle et la mort éternelle. C'est parce que Dieu est juste que les gens qui ont vécu toute leur vie dans l'injustice doivent être envoyés en enfer. Et c'est parce que Dieu est amour qu'il propose gratuitement à tous les pécheurs, à tous les hommes, de recevoir la vie éternelle, de recevoir sa présence et le pardon de tout péché. On peut dire que la justice de Dieu se trouve en enfer et que la bonté et l'amour de Dieu se trouvent au ciel. C'est pourquoi il est écrit, Dieu dit, « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » L'enfer n'est pas le fruit ou le produit de l'imagination d'un homme. L'enfer a été créé par Dieu pour Satan et les démons, pour en fait tout esprit qui refuserait de se soumettre à Dieu, qui refuserait d'accepter l'amour de Dieu, c'est une prison éternelle. Tout esprit, qu'il soit un mauvais esprit, qu'il soit Satan, qu'il soit un esprit d'homme qui refuse de se soumettre à Dieu, qui refuse l'amour de Dieu, qui refuse le pardon de Dieu, sera envoyé en enfer. Huitième question, où se trouve l'enfer ? Alors, plusieurs versets de la Bible parlent en ces termes de l'enfer en disant « il est en bas » ou encore dans les profondeurs de la terre. La Bible parle encore d'un lac de feu, d'une fournaise ardente. Tout porte à croire, bien sûr, que l'enfer se trouve sous nos pieds. Cette expression qui est utilisée dans le Nouveau Testament parlant de Satan qui est sous nos pieds lorsqu'il a été vaincu par Christ à la croix. Et au centre de la terre, nous savons qu'il y a un lieu de feu, de soufre, une fournaise ardente. Et tout comme je l'ai dit en début de cette émission, tout comme le ciel est en haut, je crois personnellement, effectivement, que l'enfer est en bas et certainement au centre de la terre. Que se passe-t-il maintenant en enfer ? Que se passe-t-il en enfer ? Contrairement à ce qu'on peut voir dans certains dessins animés, dans certains films, certaines images qui ont été projetées où on voit Lucifer avec deux cornes, avec un trident qui fait du mal aux gens, ce n'est absolument pas ça qui se passera en enfer, dans ce lac de feu et de soufre. Première chose à dire, c'est que Satan n'y régnera pas. Il deviendra comme tout homme, dénué de toute puissance. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui seront en enfer, dans ce lieu de tourment, diront « Mais est-ce là l'homme ou l'esprit qui faisait peur à toute la terre ?» Il sera dénué de puissance. Et ceux qui seront en enfer avec lui diront « Il est devenu comme l'un des nôtres. Il est devenu comme nous. Il sera comme un ver. » Et si quelqu'un devait avoir la domination en enfer, ce ne serait certainement pas lui. Mais on imagine le nombre de gens qui voudraient se venger de lui. Satan sera dénué de puissance, c'est première chose. Deuxième chose, que se passera-t-il en enfer ? Les gens vont souffrir et les gens vont crier de douleur. Ils vont pleurer des larmes brûlantes. Ils vont pleurer et grincer des dents, c'est ce que la Bible nous dit. Les gens en enfer vont se souvenir de tout. Et je crois personnellement, bien sûr, qu'ils vont repasser dans leurs pensées sous une terrible oppression. Milliards d'années après milliards d'années, leur souvenir de la terre. Ce sera une terrible oppression spirituelle, terrible agonie, terrible douleur, terrible travail de l'âme et de l'esprit dans les flammes, que de se souvenir des bienfaits de la terre, de ceux peut-être qui nous ont apporté l'évangile. des gens qui nous ont parlé, qui ont prié pour nous et dont on a refusé le message. Ce sera d'éternels regrets. Et les gens seront dans cette prison éternelle en se souvenant et en repassant de leurs pensées, comme s'ils étaient fous, tout ce qui leur est arrivé sur la terre. Ils seront oppressés, obsédés par ces pensées. Que se passera-t-il en enfer ? Les gens n'auront rien qui pourra leur procurer du bonheur, puisque Dieu n'y sera pas en manifestation. Tout fruit de la bonté de Dieu, tout fruit de l'amour de Dieu, toute manifestation de la grâce, si on pouvait le dire, de la gentillesse, de l'amour de Dieu, n'y sera pas. Il n'y aura rien en enfer qui pourra produire du bonheur. Il n'y aura rien en enfer qui pourra produire de la joie. Que se passera-t-il en enfer ? Ce sera des temps de terrible solitude. De terrible solitude. Comme dans une prison, entre quatre murs, les gens seront seuls. Bien sûr, il y aura ici et là des âmes emprisonnées, mais les gens seront poussés dans une profonde et une terrible solitude. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Que se passera-t-il en enfer ? Les gens regretteront amèrement. Ce sera d'éternels regrets. Si j'avais pu me soumettre à Dieu, si j'avais pu accepter la grâce de Dieu, si j'avais pu simplement accepter le don gratuit de la vie éternelle, si j'avais pu me soumettre à Dieu, si j'avais pu ce jour-là dans cette réunion, dans cette église, si j'avais pu là ce jour-là quand j'étais dans la rue et que des gens m'ont approché pour prier pour moi et me présenter le message de l'évangile, si j'avais pu en écoutant cette émission ce jour-là recevoir le Seigneur Jésus-Christ, ce sera d'éternels regrets pour ceux qui n'ont pas accepté de se soumettre à celui qui les a créés, à celui qui les a aimés, à celui qui a envoyé Jésus-Christ mourir pour leurs péchés, qui les a portés. Il ne suffisait plus que de l'accepter et que de vivre pour lui et que de persévérer dans la foi. D'éternels regrets. Que se passera-t-il en enfer ? Les gens s'imagineront le ciel. Plein de colère et de haine. Plein de douleur. Les gens imagineront le ciel sans jamais pouvoir y entrer, sans jamais pouvoir le percevoir, sans jamais pouvoir réaliser la grandeur de ce ciel. Ils ne pourront plus jamais voir ce qu'ils ont aimé. Ils ne pourront plus jamais bénéficier du fait de pouvoir vivre, respirer, sourire, être heureux. Que se passera-t-il en enfer ? Les gens espéreront que cela s'arrête. Ils espéreront une fin. Ils espéreront un arrêt. Ils espéreront être anéantis. Ils chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils seront emprisonnés dans une prison éternelle. Je me souviens un jour, j'ai fait des vaccins et je devais avoir une vingtaine d'années. Quand j'ai fait ces vaccins-là, j'ai fait comme un malaise. Et je me souviens, ça a duré quelques instants, quelques secondes, et je pouvais entendre tout ce qui se passait autour de moi. J'étais conscient de toutes choses autour de moi, mais il était impossible d'avoir une quelconque possibilité de faire bouger mon corps, d'ouvrir mes yeux ou de me réveiller. Et pendant ces quelques instants qui m'ont paru longs, j'ai eu le temps de me poser la question, mais combien de temps ça va durer ? J'étais dans une prison, comme quelqu'un dans le coma, qui entend tout ce qui se passe autour de lui, mais qui ne peut rien faire dans son corps. Une prison éternelle. Et cette expérience m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, car j'ai ne serait-ce qu'à peine effleuré, bien sûr, la condition de ceux qui seront non pas dans une condition seulement où ils ne pourront plus bouger, mais eux seront dans une condition d'enfer éternel, de souffrance éternelle. Combien de temps les gens resteront en enfer ? Éternellement. C'est toujours ce mot qui est utilisé, le même mot qui est utilisé pour ceux qui seront au ciel que ceux qui seront dans la géhenne, en enfer, dans le lac de feu et de soufre, éternité. Les gens y seront pour l'éternité. Ça ne s'arrête pas. Il est écrit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte, pour la honte éternelle. L'expression « au siècle des siècles » est employée pour les tourments éternels. L'expression « le feu qui ne s'éteint pas » ou encore « qui n'aura pas de fin » sont toutes des expressions qu'on emploie pour l'enfer. Il y a des dizaines de versets qui parlent de l'enfer dans la Bible. On peut en trouver dans le livre de Job, dans les Proverbes, dans chacun des évangiles bien sûr, dans le livre de Romains, dans Philippiens, dans Hébreux, dans 2 Thessaloniciens, dans 2 Pierre, dans Jude, dans l'Apocalypse bien entendu. Partout, il nous est parlé de l'enfer. Comme partout, il nous est parlé du ciel. Je vais vous lire juste quelques passages dans Matthieu chapitre 25. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits !» Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Jésus dit encore, je vous montrerai qui vous devrez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Alors, qui ira en enfer ? J'ai trouvé 16 types de personnes ou de choses qui iront en enfer dans la Bible. Et tout comme Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden jusqu'à leur mort, ils ont été chassés de la présence de Dieu telle qu'ils en bénéficiaient dans le jardin d'Éden. Ceux qui ont refusé de se soumettre à Dieu seront chassés de la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'enfer. En réalité, non seulement ils n'iront pas en enfer, mais ils y seront jetés. Ce n'est pas simplement qu'ils iront en marchant en enfer, ils seront jetés en enfer. C'est toujours l'expression qui est utilisée dans la Bible. Parlons de ces choses. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, au chapitre 20, on voit donc 16 types de personnes ou de choses qui iront en enfer. Première chose, il est écrit « La bête fut prise, et avec elle, le faux prophète ». Deuxième chose, ou deuxième type de personnes, « qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés, vivants, dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Plus loin, il est écrit « La mort », troisième chose, « et le séjour des morts », vous vous souvenez, on en a parlé, « furent jetés dans l'étang de feu ». C'est la seconde mort, l'étang de feu. Il est écrit aussi, cinquième type de personne, « quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie », c'est le cinquième type de personne, « fut jeté dans l'étang de feu ». Sixième personne, il est écrit « le diable qui les séduisait » fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés au siècle des siècles, jour et nuit. Et ici, on va avoir plusieurs types de personnes, les uns après les autres, dont la Bible nous parle dans l'Apocalypse. Mais pour les lâches, septième type de personnes, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, quatorzième type de personnes, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Si quelqu'un, quinzième type de personne, adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 16e type de personne, ce qui arrivera dans la tribulation. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Alléluia. Verser sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Dernière question, pourquoi les gens iront en enfer? J'en ai parlé un peu. Les gens iront en enfer à cause de leur cœur rebelle à Dieu. Vous avez été créés par Dieu pour être aimé et pour l'aimer. Vous avez été créés par Dieu parce qu'il vous a aimé quand et avant même que vous puissiez être dans le sein de votre mère. Dieu vous avait aimé. Dieu vous avait choisi. Dieu vous avait appelé à le connaître et à jouir de sa présence dans votre vie chaque jour. Les gens iront en enfer comme une punition parce qu'ils n'ont pas connu Dieu et parce qu'ils n'ont pas obéi à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Demain, nous verrons ensemble comment échapper à l'enfer. Mais dès aujourd'hui, si vous écoutez ces choses, et si vous écoutez Dieu qui vous parle à travers ma voix, ne résistez pas. Dieu veut vous sauver aujourd'hui. Dieu veut vous libérer. Dieu veut vous pardonner. Dieu veut vous justifier. Et il vous a tellement aimé qu'il a envoyé à votre place, mourir à votre place, à cause de vos péchés, à votre place, Jésus-Christ. Il a pris vos péchés sur lui. Il a été maudit à votre place, alors que vous deviez, à cause de vos péchés, à cause de votre insoumission, parce qu'un jour vous avez menti, parce qu'un jour vous avez volé, parce qu'un jour vous avez regardé quelqu'un ou le bien de quelqu'un et vous l'avez convoité, parce qu'un jour vous avez fait du mal, un jour ou l'autre, vous êtes devenu pécheur. Et la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés à cause du sacrifice et de l'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Oui, Dieu vous a tant aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à votre place. Il a pris votre place à la croix. Il a porté vos péchés. Et si aujourd'hui vous le regardez, si aujourd'hui vous donnez vos péchés à Dieu, si aujourd'hui vous donnez votre vie à Jésus-Christ, et si vous aujourd'hui acceptez de vous soumettre à lui, qu'il devienne votre sauveur, votre Seigneur, celui qui vous sauve, mais aussi celui qui va diriger votre vie, le Seigneur va venir aujourd'hui porter vos péchés et vous libérer de tout péché. Vous libérez de vous de toute condamnation et vous allez à partir d'aujourd'hui en l'acceptant devenir une nouvelle créature. Oui, où toutes choses seront nouvelles. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle par une prière là où vous êtes. Recevez-le par une prière là où vous êtes avec vos mots. Demandez-lui pardon. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Jusqu'ici, recevez-le dans votre cœur et soumettez-vous à son amour.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière et vos témoignages à prière@enseignemoi.com. Retrouvez toutes les émissions de Prière Inspirée sur emcitv.com.